France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Éducation nationale. Encore quelques jours de vacances pour les élèves et ce sera lundi prochain la rentrée. D'ici 10 minutes, vous avez la parole, amis auditeurs, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Lundi, vous avez reçu les syndicats de l'éducation qui ont noté, comme le SNUIPP, un changement de ton évident de votre part, une volonté de faire de la pédagogie. Après une année plutôt mouvementée, stylo rouge, grève des directeurs d'école, grève de certains correcteurs du bac. Avez-vous profité de l'été, monsieur le ministre, pour changer de manière de faire, changer de méthode? Est-ce que vous diriez, vous aussi, comme Emmanuel Macron, j'ai changé?
On change tous, toujours, et heureusement. Ça fait partie de la condition humaine. Réfléchissez à ce que vous étiez il y a 10 ans. Vous êtes à la fois le même et différent. Donc, nous sommes tous comme ça. Et surtout, quand on revient de vacances, on est tous plus détendus. Il y a eu l'année dernière des dimensions de fièvre, pas seulement dans le domaine de l'éducation nationale, qui ont conditionné beaucoup de choses, parfois beaucoup de malentendus ou d'agacements de part de différents acteurs. Et donc, oui, il y a un effet vacances, bien entendu. Et en effet, on a tous envie qu'une scolaire se passe bien, parce que ce qui compte, c'est nos enfants, nos élèves. Et donc c'est cet état d'esprit ultra constructif que je veux partager avec tout le monde, bien sûr.
Suite au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une profonde autocritique d'Emmanuel Macron, du président, de l'exécutif dans son ensemble. Tous ont reconnu avoir été dans un premier temps trop lointains, trop verticaux, trop sachants. Est-ce que vous en prenez votre part de ces critiques-là? Est-ce que vous l'admettez d'une certaine manière comme ministre de l'Éducation ou pas vraiment?
Si, bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours une dimension de verticalité et une dimension d'horizontalité. Le sujet est un sujet d'équilibre. Quand vous êtes professeur et que vous êtes dans la classe, il y a une dimension de verticalité et il est bon qu'elle demeure. Et il y a une dimension d'horizontalité et il est bon qu'elle soit là aussi. Et cet équilibre, nous l'avons aussi dans la gouvernance à le trouver, alors qu'il y a parfois eu trop de verticalité. Je peux facilement l'admettre. Ça n'est pas un problème de l'admettre. Ce qui est important, c'est dans le futur d'avoir ce bon équilibre où on doit faire avancer le système français. C'est un grand service public de l'éducation nationale, donc prenons-en les vertus. La vertu d'être un grand service public de l'éducation nationale, c'est qu'on est capable de faire bouger les choses, ce que d'autres systèmes éducatifs ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont très décentralisés. Donc nous devons avoir cette vertu-là, mais nous devons aussi avoir la vertu de la participation, de l'engagement. C'est pourquoi je parle beaucoup d'engagement des élèves, d'ailleurs, en cette rentrée. J'en ai parlé pour l'environnement, mais ça peut être vrai sur d'autres sujets. Comment on met en mouvement nos élèves sur des choses qui, finalement, dépassent l'individu?
Alors, il y a un certain nombre de choses importantes qui entrent en application lors de cette rentrée. Par exemple, l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Lundi, donc, 25 000 enfants de plus découvriront les bancs de l'école. Ils sont pour la plupart localisés en Outre-mer et en Seine-Saint-Denis, avec donc les syndicats qui pointent un problème très concret. Le bâti actuel ne suffit pas en Seine-Saint-Denis et en Outre-mer. Le personnel enseignant non plus. Qu'en est-il, Jean-Michel Blanquer? À quelle date les élèves, ces nouveaux élèves, auront-ils un toit au-dessus de la tête et un prof devant eux?
Ah, c'est donc deux sujets, ressources humaines et bâti. Le ressources humaines, c'est l'éducation nationale. Le bâti, c'est les communes. Sur les ressources humaines, elles sont là. Là, je ne suis pas du tout d'accord.
D'enseignants.
Aucun problème de ce côté-là. Je rappelle qu'on a créé 2300 postes à l'école primaire en cette rentrée. Et donc, les postes d'enseignants sont là. Parfois, outre-mer, il peut y avoir un problème de recrutement. Mais les postes sont là. Même pour la Guyane et pour Mayotte, nous avons créé des postes, bien sûr. Et nous sommes au rendez-vous. Sur le bâti scolaire, le fait que l'instruction obligatoire à 3 ans permet de mettre la lumière sur un problème qui de toute façon existait, c'est-à-dire des enjeux de bâti scolaire, que ce soit sur le plan quantitatif, quand il y a une forte démographie comme en Guyane ou à Mayotte, ou sur le plan qualitatif parce que les bâtiments sont vieux, c'est, je dirais, une bonne chose, c'est-à-dire que ça nous oblige ensemble, État et collectivités, à des investissements qui de toute façon sont nécessaires. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. À Mayotte et en Guyane, on a un plan immobilier très volontariste, et dans les deux cas. Et vous avez évoqué la Seine-Saint-Denis, on pourrait parler aussi d'autres départements, mais là aussi c'est pareil. Avec les préfets, nous travaillons pour que l'aide de l'État aux investissements des collectivités permette d'avancer. Il y a aussi, par exemple, si on prend le sujet de Marseille, c'est pas l'instruction obligatoire à 3 ans qui pose un problème sur le bâti scolaire, c'est un vieux problème, et on doit être en coopération entre l'État et la commune pour tout simplement faire évoluer ces sujets positivement.
Mais là, lundi, tous les élèves auront une classe.
Oui, bien sûr, tous les élèves, bien sûr, la rentrée a été préparée et tout. Alors, pour arriver à ce que tous les enfants de Mayotte et de Guyane aillent dans maternelle, dès 3 ans, certainement c'est un peu sur 2 ou 3 rentrées qu'on va y arriver pleinement, je le confesse volontiers. Mais en tout cas, la direction est prise et ceux qui sont inscrits seront accueillis, bien sûr.
Autre sujet, c'était une de vos grandes réformes, le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les REP et les REP+. Il s'étend encore cette année, 300 000 élèves sont concernés. Ils seront donc maximum 15 par classe dans ces zones-là. Là aussi, les syndicats s'interrogent sur le coût humain et financier. Est-ce que le plan, vous pouvez nous dire que le plan est aujourd'hui totalement opérationnel et déployé ?
Oui, je pense que c'est d'ailleurs un point majeur de cette rentrée, parce que on dit parfois boucher avalé n'a plus de goût. Et vous avez parlé de d'ailleurs juste avant, j'ai entendu l'éducation. C'est une expression, le président l'utilise parfois aussi d'ailleurs. Autrement dit, ce qui a été fait est rapidement oublié. Or, je m'inscris contre l'adage, c'est-à-dire je pense que
boucher avalé a du goût.
À continuer à en avoir, parce que cette mesure est fondamentale. Elle est en train d'arriver à maturité, c'est-à-dire comme vous l'avez rappelé, elle touche 300 000 élèves en cette rentrée, c'est considérable, c'est-à-dire 2 fois 150 000 de CP et de CE1, c'est-à-dire 20% d'une génération, et c'est-à-dire 20% de ceux qui sont dans les territoires les plus défavorisés. Les premiers fruits de cela commencent à arriver. J'entendais une professeure de CE2 la semaine dernière à La Réunion, qui avait donc déjà fait sa rentrée, et elle me disait comment les nouveaux élèves qu'elle avait, qui étaient ceux qui avaient bénéficié de la mesure au cours des 2 dernières années, étaient très différents de ceux qu'elle avait les années précédentes, parce qu'ils savaient lire, écrire, compter, ils étaient heureux de travailler, ils étaient au travail. Eh bien, c'est ce fruit-là que nous voulons, qui est un fruit à la fois d'élévation du niveau des élèves et aussi un fruit de lutte contre l'injustice.
On va y venir à l'évaluation de vos réformes dans un instant.
Cette mesure est en pleine maturité et donne ses fruits. Je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est évidemment les professeurs de CP.
On va y voir, mais d'abord le baccalauréat.
Oui, beaucoup de sujets, évidemment, Jean-Michel Blanquer, pour cette rentrée. La réforme du baccalauréat est en route. Les classes de première ne sont plus réparties à l'ancienne en S, ES, L et toutes les autres sections, mais en choix de spécialité. Vous avez annoncé au syndicat qu'un comité de suivi sera mis en place pour tenir compte des difficultés de mise en œuvre éventuelle de cette réforme, décider d'aménagement. Est-ce qu'il y a là encore partout assez d'enseignants pour enseigner toutes les nouvelles spécialités ?
Oui, bien sûr, nous avons travaillé très fortement sur ce sujet. Une des illustrations les plus fortes pour répondre à votre question, c'est ce qui se passe dans la nouvelle discipline qui s'appelle sciences informatiques et numériques. Cette nouvelle discipline est une innovation majeure pour la France. Nous devenons le pays qui inscrit l'informatique comme une discipline à part entière désormais dans le système scolaire à cet âge, c'est-à-dire vers 16 ans. C'est unique au monde et c'est extrêmement important à la fois pour les élèves concernés, par exemple pour qu'il y ait plus de filles dans le futur qui aillent vers l'informatique, mais aussi pour notre pays en général
Il y a assez de profs.
Eh bien, nous avons formé 2000 professeurs pour cette rentrée. Là aussi, c'est eux qui en parleraient le mieux, c'est pas ceux qui ont été formés, parce que c'est des formations qui ont été faites avec le monde académique, avec les universités. Eh bien, aujourd'hui, en cette rentrée, nous avons le fruit de ce travail de fond qui a été accompli, qui s'accompagne de la création d'un CAPES informatique, bref, d'une petite révolution sur ce sujet qui est si essentiel.
Vous avez pourtant précisé les modalités du contrôle continu au bac qui aura lieu en 2021 seront à ajuster. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Certains craignent des inégalités de notation entre les territoires. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là ? Qu'est-ce qui pêche ?
Il y a un sujet de curseur, si vous voulez. C'est-à-dire que la réforme du lycée, je le rappelle, elle a été conçue après une consultation très vaste menée par Pierre Mathiot, puis moi-même, j'ai mené une concertation de plusieurs semaines avec les organisations syndicales, avec les lycéens, etc. Il fallait concilier deux principes en matière de contrôle continu. Un principe de simplicité, puisqu'on ne veut pas d'usine à gaz de passage des examens, et un principe d'objectivité, puisqu'on ne veut pas d'inégalité liée aux circonstances d'un endroit à l'autre. Il faut donc concilier ces deux principes et mettre le curseur au bon endroit. Et donc, pour arriver au principe d'objectivité, il a été décidé un certain nombre de choses, comme avoir une banque de sujets nationale, comme avoir un correcteur qui n'est pas votre professeur et qui est anonyme, une série de choses comme ça qui donc vont dans le sens de l'objectivité, mais peuvent parfois aller à l'encontre de la simplicité. Donc dès qu'on penche trop d'un côté ou de l'autre, il y a des critiques pour dire tout ça est trop compliqué ou tout ça n'est pas assez objectif.
À vos yeux, le problème, c'est que c'est pas assez objectif.
Non, à mes yeux, nous étions arrivés avec les conception élaborée à un équilibre, donc à mes yeux on a un point d'équilibre, mais j'entends les critiques, et donc le comité de suivi va permettre de responsabiliser tout le monde. Quels sont ceux qui veulent faire pencher les choses vers plus de simplicité, vers plus d'objectivité? Okay. On peut certainement être assez créatif pour encore améliorer le système. C'est à ce genre de choses que sert le comité de suivi.
Et vous répondrez dans ce comité aussi à l'inquiétude qui consiste à dire qu'il pourrait y avoir autant de baccalauréats qu'il y a d'établissements, qu'il y a de classes et qu'il y a d'élèves. Bref, que le bac n'aura plus la même valeur nationale. C'était le deuxième point que vous soulignez, oui, dans les ajustements à trouver. C'est un sacré ajustement quand même.
Mais c'est un point, si vous voulez. Je dirais, cet argument, on l'entendait, j'étais sûr qu'on l'entendrait, parce que c'est ce qu'on dit quand on veut critiquer cette réforme, alors même qu'en réalité, nous nous attaquons justement aux inégalités. Le fait qu'il y ait des inégalités entre établissements et qui sont des inégalités de territoire, en réalité, c'est un fait. C'est pas quelque chose que nous avons créé. Nous voulons justement le compenser en donnant plus de force au baccalauréat, en donnant aussi plus de force au contrôle continu, parce que le contrôle continu, ça encourage le travail en continu des élèves. Parfois, vous avez des élèves de lycée plus favorisés, disons, qui se plaignent de ce contrôle continu en disant qu'ils sont plus notés plus sévèrement que dans les autres. Donc le sujet, il n'est pas du tout binaire, et on n'est pas du tout en train de renforcer les inégalités. Par ailleurs, l'implantation des enseignements de spécialité a fait l'objet de notre part d'un volontarisme en faveur des établissements les plus défavorisés, et notamment les plus petits, parce que c'est les établissements les plus gros qui peuvent avoir plus de choix.
Le plan violence.
Il y a des questions au standard justement sur le sujet. On va donner la parole à Aude. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour à tous. Ben, moi, je suis enseignante spécialisée en classe relais à Toulouse. Et donc, monsieur le ministre, vous avez annoncé hier que donc les élèves hyper violents, exclus des établissements, seraient orientés d'office, si je puis dire, vers des classes relais. Donc d'abord, bon, moi je voulais faire une remarque, c'est qu'il me semblait un peu difficile d'orienter un jeune sur un dispositif, un tel dispositif, sans avoir vraiment travaillé l'adhésion de sa famille au projet. Et puis j'aurais une question, monsieur le ministre, quels moyens vous envisagez pour ouvrir de nouvelles classes relais? Et en particulier, quels moyens humains? Parce que si ces jeunes sont hyper violents, ils auront besoin
d'être très bien entourés, bien entourés. Merci Aude pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond. Déjà pour commencer, sur envoyer les élèves très problématiques, éventuellement sans même l'avis des familles. D'accord. Ça, c'était le premier point.
Bon, d'abord, je veux vous saluer, madame, et vous remercier, parce que et vous dire d'emblée que c'est un peu un hommage à votre travail, ce que j'ai dit hier, puisque si vous êtes professeur en classe relais, vous avez un rôle extrêmement important dans notre système tel qu'il est, c'est-à-dire vous permettez à des élèves sous un angle éducatif de revenir à de bons sur un bon chemin. Donc c'est votre travail est essentiel, et c'est un peu ce qui est aussi à retenir dans ce que j'ai dit hier. L'autre élément, c'est que bien entendu on conserve la dimension d'adhésion aux classes relais, mais il y a des et donc
non,
pour
mais
la
il faut
plupart
plus
des élèves
pardon Il ne faut plus l'autorisation des parents.
Il y a encore. Enfin, je termine le raisonnement, si vous voulez. Mais bien sûr qu'il y aura encore pour l'immense majorité des élèves qui sont en classe relais le fait que ça aura été discuté avec les parents. Mais on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas certains problèmes qui existent bel et bien. C'est-à-dire, par exemple, une famille quasi absente, voire absente tout court, ou une non-adhésion, mais qu'il y ait une forme d'hostilité au système scolaire. Ces choses-là existent. Donc, nous devons les regarder en face. Ce serait paradoxal aujourd'hui qu'on nous reproche d'aller trop loin, alors même qu'il y a un peu moins d'un an, quand il y a eu la crise autour de l'enjeu des violences scolaires, on nous disait qu'on était laxiste. Là, ce que l'on veut, c'est tout simplement que les classes relais et les dispositifs relais en général puissent, parce qu'ils ont prouvé leur efficacité, être au bénéfice des élèves, si possible avec l'adhésion. Mais quand l'adhésion n'est pas possible, et ça doit être un cas extrême, on ira en force, mais ce sera pas le cas le plus général. Par ailleurs,
c'est en dernier recours,
bien entendu. Il faut d'abord discuter avec la famille. Toute la philosophie de ce que nous avons dit, et d'ailleurs, je rappelle que c'est un des points que j'ai annoncé hier, c'est qu'il y aura un protocole entre la famille et l'inspecteur d'académie. Simplement, on ne peut pas être naïf. Il y a des cas où vraiment il y a de la difficulté forte avec la famille, et donc on doit pouvoir affecter d'office. Par ailleurs, c'est une autre dimension de cette question, c'est est-ce que l'on va développer les moyens pour les dispositifs relais? La réponse est oui, et donc encore une fois, c'est quand même
combien
c'est en fonction. Aujourd'hui, vous avez 1500 poly-exclus par an à peu près. Donc c'est les élèves, disons, les plus violents, ça représente 1500. On va ajuster les moyens en fonction de ce que nous verrons. J'espère que nous allons faire descendre ce chiffre parce que justement l'ensemble des politiques menées contre la violence doit permettre de le faire descendre. Mais il y aura les moyens qu'il faut pour les dispositifs relais. On fera même les internats relais supplémentaires autant que nécessaire. Nous voulons que la vie des établissements ne soit pas tirée vers le bas par des élèves vis-à-vis desquels on ferme les yeux en ce qui concerne leur violence.
Jean-Michel Blanquer, vous aviez envisagé la possible suppression des allocations familiales pour les élèves à problème. Vous aviez envisagé la possible présence policière accrue dans les établissements scolaires. Sur ces deux points-là, c'était des mauvaises idées finalement, vous renoncez ?
Alors d'abord, je vous demande de toujours faire le distinguo entre ce qu'on dit, que je dis et ce que je dis. Sur ces sujets, vous avez eu 1000 articles et je ne vais pas faire l'exégèse de ce que j'ai déclaré, mais c'était un petit peu plus compliqué que cela. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il fallait quelque chose de personnalisé. Je me méfie beaucoup des choses, disons, générales et absolues qui s'appliqueraient de manière aveugle à tout le monde. Il est évident que chaque élève est un cas particulier et qu'on doit avoir des solutions éducatives. Il est évident aussi qu'on doit responsabiliser les familles. Mais ça passe pas nécessairement par le sujet des allocations familiales, ça peut passer par d'autres choses.
Ça pourrait passer par ça. Or, vous
ça
dites
aurait
non.
Pu. Ah ben parce que moi, si vous voulez, d'un point de vue intellectuel, je ne m'interdis pas au début d'un raisonnement, quand on dit on va essayer de résoudre un problème, je ne m'interdis pas le spectre des possibilités.
Et c'est pour ça qu'on a fait l'exégèse de ce que vous avez dit, si vous me permettez. C'est que vous n'avez pas fermé la porte brutalement.
Ce qui est difficile dans le débat public, si vous voulez, c'est qu'il y a toute une série d'autocensures. On fait semblant de ne pas voir les problèmes. Moi, j'essaye de ne pas être comme ça. Je pense que ça n'est pas une bonne solution, la suppression aveugle des allocations familiales. Maintenant que l'on regarde l'ensemble des leviers avant de prendre une décision, ça me paraît sain.
Allez, Honoré est au standard. Bonjour et bienvenue sur Inter.
Bonjour, merci d'avoir pris ma question. Bonjour, monsieur Blanquer.
Bonjour.
Moi, j'ai une question. Vous avez mis, j'ai entendu pendant votre conférence de presse, que vous mettez plein de choses en place pour améliorer l'école primaire. Notamment pour essayer de mettre en place un enseignement de qualité avec le dédoublement des classes, etc. Voilà, moi et ma femme, on est enseignants, professeurs des écoles en primaire. On est à 5 jours de la rentrée et on sait toujours pas dans quelle classe, ni dans quelle école, ni dans quel niveau on est.
Vous n'avez pas de poste ?
Non, j'ai toujours pas de poste. La réunion est aujourd'hui apparemment. Voilà, nous on a deux enfants en bas âge, donc que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Comment mettre un enseignement de qualité, sachant que je ne sais pas si je suis dans l'école de mon village ou si je suis à 1h30 comme c'était le cas l'année dernière. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place pour les élèves. Mais voilà, est-ce que au niveau de la gestion des enseignants, moi j'ai enseigné à l'étranger, ma sœur enseigne en Belgique, ça se passe vraiment différemment.
Mais vous êtes remplaçant ou vous êtes...
Vous êtes remplaçant, Loré, demande Jean-Michel Blanquer.
Non, je suis titulaire, je suis au troisième mouvement.
D'accord.
Et du coup, ma femme aussi, donc voilà, on a deux enfants, c'est pas
d'accord.
Comment s'organiser. Donc voilà, donc sans parler du niveau personnel, qui est déjà très compliqué, comme au niveau professionnel, on est 242 dans l'académie à pas savoir dans 5 jours où on est.
Merci Honoré pour cette question, Jean-Michel Blanquer vous répond.
Vous êtes dans quelle région de France?
Académie de Besançon.
D'accord. Normalement, ce problème est un problème récurrent à l'éducation nationale, c'est-à-dire les ajustements de la pré-rentrée. Normalement, le nombre de personnes dans votre situation est assez faible, c'est de l'ordre de 2 à 3% à l'échelle nationale.
Mais c'est quand même un problème de ne pas savoir à 5 jours de la rentrée.
Il y a toujours, vous savez, il faut comprendre pourquoi, ça existe depuis toujours, il faut comprendre pourquoi. C'est que, par ailleurs, il y a le sujet démographique, c'est-à-dire, pour être au plus près des réalités de terrain, il faut que l'éducation nationale puisse juger jusqu'à la dernière seconde, combien il y a d'élèves pour de vrai dans les classes. Donc c'est vrai que ça crée une sorte de marge d'ajustement, mais qui normalement est réduite à son maximum. Donc c'est évidemment une situation assez anormale. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez évidemment votre affectation avant la rentrée, ça va de soi, mais je regarderai ce qu'il en est, mais je reconnais bien volontiers que c'est pas normal
baroque.
Et qu'on essaye de réduire...
C'est baroque quand même. Que ce...
Oui, mais c'est baroque, mais c'est ni nouveau ni accentué. Normalement, il y a moins de situations de ce genre aujourd'hui que par le passé. Mais je vais regarder, puisque vous m'avez cité l'académie, je vais regarder.
Monsieur le ministre, il y a une inquiétude légitime des parents parisiens suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris et de la potentielle pollution au plomb dans les établissements scolaires autour de la cathédrale. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Est-ce qu'il faut reporter la rentrée dans ces écoles-là ?
Alors, c'est un sujet évidemment scientifique et technique sur lequel on doit se référer à ce que les experts nous disent. Dès le début, l'Académie de Paris a travaillé avec l'Agence régionale de la santé pour faire les évaluations nécessaires. Et à ce stade, je préfère pas. C'est pas à moi, si vous voulez, maintenant de prendre cette décision sans avoir l'approche définitive.
Ce matin, le premier adjoint à la maire de Paris dit rien ne justifie un report de la rentrée scolaire.
Oui, je sais. Mais c'est pour ça que
vous ne savez pas si vous êtes d'accord avec lui.
Voilà, exactement. C'est, vous résumez bien les choses. J'ai besoin d'avoir encore de. Mais j'entends ce qu'il dit et je respecte, bien entendu. Et ils ont évidemment un rôle. La mairie a toujours un rôle décisif pour ces questions. Mais nous sommes trois acteurs, eux, l'Agence régionale de santé et l'Éducation nationale. Mais je n'ai pas de raison de douter fortement de ce qu'il
a dit.
Donc
à ce jour, ça reste ouvert. Pas de
mais simplement, vous voulez, il y a juste un principe de précaution, puisqu'on parle de choses d'importance, c'est-à-dire la santé des enfants, c'est essentiel. On doit être donc très, très prudent. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses faites pour des dernières semaines pour s'assurer de la santé des enfants. Donc je suis assez optimiste sur le sujet, mais je préfère pas vous dire quelque chose de tranché maintenant.
Ça fait 2 ans, Jean-Michel Blanquer, que vous êtes ministre. Vous avez, on l'a dit d'un mot tout à l'heure, voulu réformer l'éducation nationale au pas de charge. Dites-nous quand et comment vous jugerez que vous avez réussi, que les résultats sont là, et à l'aune de quels critères surtout. Par exemple, est-ce que vous attendez que la France monte nettement dans les prochains classements internationaux? Ils sont critiquables, mais ils sont un instrument comme un autre. À quel moment vous direz j'ai réussi, ça a changé, ça va mieux? Et comment?
C'est évidemment une question très importante. On est forcément sur des sujets de moyen et long terme et pas sur des sujets de court terme. Il y a un instant, je vous disais qu'on avait de premiers fruits s'agissant des nouveaux CE2 de réseau d'éducation prioritaire, mais on est encore au tout début d'un phénomène. Je pense qu'il faut rappeler les grands objectifs. Le premier d'entre eux, le plus fondamental, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui tout au long de l'école primaire, et donc sortir de l'école primaire avec des savoirs fondamentaux bien ancrés, en étant un élève épanoui et en confiance. Ça, c'est.
Mais ça, comment vous le mesurez?
Vous allez avoir. Vous avez pas.
Il y a le classement PISA qui arrive.
Tout à fait. Alors,
on est 26e sur 70. Est-ce qu'on va monter, monsieur le ministre? Est-ce que vos réformes vont montrer un bon significatif?
Il faut le carnet de notes, là, pour vous.
Il faut être précis et sérieux. Sur PISA, c'est des élèves de 15 ans. Le résultat que nous aurons au mois de décembre correspond à des élèves qui ont passé l'examen, qui ont passé le test il y a maintenant un an. J'ai été très attentif à ça. Et je ne vais pas vous prétendre que par un coup de baguette magique, les élèves de 3e, grâce à mon action, ont augmenté leur niveau. Néanmoins, nous avons fait plusieurs choses. Et l'une d'entre elles a été de prendre au sérieux le passage de PISA. Parce que je prends au sérieux, évidemment, ces évaluations internationales. Et je considère qu'elles sont un stimulus intéressant pour notre système. Et donc, les élèves qui ont passé PISA en France il y a un an, parce qu'on a mené une action spécifique, avaient travaillé sur des exercices comparables. Souvent, la France a été désavantagée dans le passé dans ces évaluations, parce que, pour plein de raisons, y compris peut-être parfois par une certaine désinvolture dans la façon de passer ces tests. Donc, j'attends une amélioration dans PISA dans quelques mois, mais je peux pas en être certain, et ça restera forcément marginal, que dans un sens ou dans un autre. Ce sera pas le fruit de l'action.
Vous n'avez pas des indices
Non, j'ai une sorte d'optimisme congénital, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, on a eu du volontarisme dans la passation et dans les messages que nous passons au collège. Mais ça reste marginal, ce que je viens de dire. Par contre, vous avez un autre test qui s'appelle Pearls, qui a été passé il y a quelques mois, dont on aura les résultats dans un an, et qui commencera déjà à nous dire un petit quelque chose sur le rebond que nous voulons. Je vous donne un exemple.
Donc vous regarderez ça, évaluer votre action.
Bien sûr, je suis très attentif. Mais forcément, c'est au début des années 2020 qu'on commencera à avoir, notamment pour nos élèves de CM1 et de CM2, une première vision de ça.
Et le carnet de notes pour le ministre.
Pour la France, si vous voulez. C'est-à-dire que je tire aucune gloriole de tout ça. Surtout, ce serait vraiment à tous égards prématuré. Mais ce qui est très important, c'est qu'on soit très unis autour de ces objectifs. Vraiment, qu'on réussisse. C'est mon vœu le plus cher. C'est qu'il y ait une unité de la France autour de son école, et tout particulièrement de son école primaire, ce qui est au bénéfice ensuite de l'enseignement secondaire, lequel est en train d'évoluer fortement avec la réforme du lycée.
Jean-Michel Blanquer, la réforme des retraites inquiète sérieusement les fonctionnaires en général, les enseignants en particulier, puisque dans le futur régime unique, la retraite sera calculée sur l'ensemble de la carrière et plus sur les 6 derniers mois comme c'est le cas aujourd'hui. La question des primes est déterminante. Problème, elles sont faibles ces primes, elles sont rares pour les enseignants, surtout en primaire. Comment compenser pour rendre la retraite des enseignants plus juste?
Alors, c'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble de la société française, avec plusieurs éléments. D'abord, il y a une visée générale gouvernementale et du président de la République qui est avoir un système de retraite plus juste. Donc avoir un système qui soit en fait le même pour tous les Français. On part de loin puisqu'il y a beaucoup de régimes de retraite très différents aujourd'hui. Donc c'est un principe d'égalité qui est un bon principe. On se rend compte aujourd'hui, à la lumière du rapport de Levoix, que si on applique de manière aveugle ce principe, il y aura un principe de justice générale, mais en fait il y aura des effets pervers pour une série de métiers, à commencer par les personnels de l'éducation nationale. Nous en sommes tous conscients. Et donc, dès maintenant, nous disons, et quand je dis nous, c'est le président de la République, le Premier ministre et moi-même, nous disons, de toutes les façons, il n'y aura pas d'application de la réforme des retraites sans avoir résolu préalablement le fait que ça ne crée pas d'injustice, que ça crée des injustices, éventuellement, pour les personnels de l'éducation nationale. En clair, nous faisons d'un problème une opportunité. C'est-à-dire, il y a...
C'est joliment dit, mais concrètement, comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas d'inégalité?
Vous l'entendez déjà dans la conférence de presse du président de la République du 24 avril, en sortie du grand débat. Il le dit très bien. Nous sommes amenés à résoudre un problème qui est celui de la trop faible rémunération des professeurs, en ayant comme point de repère le fait que cette rémunération doit leur permettre d'avoir une retraite juste. Et c'est donc ce travail qui est engagé maintenant. Ce travail, il est forcément long et approfondi. Il n'est pas une façon de faire attendre sur l'amélioration des rémunérations, puisque nous avons pris des mesures budgétaires pour 2020 pour avoir déjà des premières améliorations de rémunération. Mais c'est clair que il y a tout un travail en profondeur aussi. J'avais parlé d'un observatoire des rémunérations qui est maintenant prêt pour pouvoir entrer en finance sur le sujet. Le sujet n'est pas le même pour un professeur des écoles débutant en Ile-de-France, par exemple, que pour un autre. Donc nous allons avancer sur ces questions, et c'est un des enjeux des groupes que nous installons avec les organisations syndicales.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été au micro de France Inter
ce matin.
Et merci
à Sonia Princey, la spécialiste éducation de la rédaction de France Inter.
Merci à vous pour l'invitation et bonne rentrée scolaire à tous ceux qui nous écoutent.